L'idée de ce projet est très ancienne, puisque c'est à la fin des années 1980, ou au moment où j'écrivais ma thèse sur l'architecture et la décoration des maisons construites par les Rothschild en Europe, que le baron Élie de Rothschild m'a demandé de faire l'inventaire de l'ensemble des libéralités offertes par sa famille aux institutions publiques françaises. Réalisé sans Internet, qui n'existait pas à l'époque, et sans l'informatisation des collections qui n'étaient pas encore achevées, ce premier inventaire, qui restera 20 ans au fond de ma bibliothèque, mettait à jour 60 000 dons, le double aujourd'hui. Plusieurs événements ont été alors déterminants. L'exposition « Donateurs au musée du Louvre » en 1989, qui montrait l'importance des mécènes privés au sein des institutions publiques françaises, la lecture de l'œuvre et surtout la rencontre en 1995 avec Francis Haskell, qui m'ont convaincue de la pertinence de ce sujet de très grande envergure. Car finalement, l'étude de leur goût constitue un observatoire privilégié pour comprendre les mécanismes du développement du marché international de l'art, l'histoire des collections, la réception des œuvres au musée ou encore la place de la communauté juive. Paris est défi audacieux, mais qui, grâce à l'adhésion de Nicolas Neumann en 2007, l'accueil convaincu et chaleureux d'Henri Loirette la même année, de Bruno Racine, des éditions du Louvre et de la BNF, les deux principales institutions bénéficiaires des plus importants legs, trouvent aussi aujourd'hui, grâce à l'engagement remarquable des 53 chercheurs associés, un magnifique aboutissement. L'entreprise s'est cependant révélée beaucoup plus longue et absorbante que je ne l'avais envisagée. Difficulté tout d'abord due à l'ampleur et à la diversité du sujet. La principale caractéristique de ce mécénat, c'est le nombre. 120 000 œuvres d'art illustrant toutes les facettes de l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours, toutes les techniques, une sorte de gigantesque musée encyclopédique où style, époque se mêlent, où les chefs-d'œuvre côtoient les œuvres les plus modestes ou les plus insolites. Aucune considération d'époque, de sujet, de lieu n'a jamais limité leur choix. La seconde difficulté est le territoire et la temporalité. Ce travail hors norme ne pouvait être envisagé que d'une manière globale et ne prend tout son sens que si on intègre cette chronologie longue, cette géographie élargie, sans chercher à traiter le sujet de manière trop étroite. Ce n'est pas un mécène, mais 28 mécènes appartenant à 4 générations de donateurs issus des branches françaises, allemandes, anglaises ou italiennes, mais établis en France, qui vont enrichir et de manière exceptionnelle le patrimoine français. Dispersion géographique et institutionnelle, puisque ce sont 220 institutions publiques françaises, musées et bibliothèques bien sûr, mais aussi mairies ou universités qui ont bénéficié de leur libéralité. Autre difficulté, et non des moindres, la complexité du réseau familial. Au-delà de leurs multiples homonymes, leurs donations ne sont pas seulement polymorphes, elles sont agrégatives et se nourrissent les unes des autres. Et très souvent, le donateur n'est pas le collectionneur. Les peintures hollandaises léguées au Louvre en 1904 par Arthur de Rothschild proviennent de son père, Nathaniel, qui les a collectionnées en 1840. Lui-même était issu de la branche anglaise et était l'époux de Charlotte de Rothschild, la fille de James, fondateur de la branche française. Le très important legs de la baronne Salomon en 1922 à l'État et au musée du Louvre et de Cluny réunit le souvenir de 3 générations de collectionneurs. Son grand-père Karl Meyer, qui avait fondé la branche napolitaine, son père Meyer Karl, installé à Francfort, dont Adèle hérite en 1886, et les collections de son époux Salomon. L'exceptionnel legs de livres d'Henri de Rothschild à la BNF en 1947 réunit des collections formées sous le Second Empire par son père James Edward, complétées par sa mère Thérèse et enrichies par lui. Plus récemment, l'ensemble exceptionnel de sculptures du XVIIIe et du XIXe siècle, conservées au château de Ferrières, données en 1976 à la chancellerie des universités de Paris, rappelle les achats de James de Rothschild sous le Second Empire. C'est cette histoire croisée, internationale, ces fils entre plusieurs générations qu'il a fallu tout d'abord comprendre et appréhender. Il m'a semblé très vite évident qu'il fallait être le plus transversal possible, casser l'approche typologique, peinture, objets d'art, art graphique. Car d'une part, la figure du donateur aurait disparu derrière la donation, et d'autre part, quantité d'objets ou de séries comme les objets extra-européens ou les objets d'art et de tradition populaire, n'auraient pas eu leur place. L'ordre chronologique des donations m'a paru le plus pertinent. Trois séquences, 1873-1922, 1922-1935, 1935 à aujourd'hui, illustrées ici par ces trois volumes, retracent cette histoire avec à chaque fois deux volets. Le fil conducteur étant de revenir à l'acteur, une étude prosopographique étudie de manière transversale la figure du collectionneur-donateur en vue de réhabiliter son rôle, ses réseaux, son itinéraire et comprendre sa démarche. Tandis qu'un second texte montre le glissement de la collection privée à la collection publique. Là aussi, il ne s'agit pas tant d'une expertise ou d'une histoire matérielle des objets, mais de définir une histoire du goût et d'analyser la réception des œuvres au musée. L'une des grandes difficultés du sujet, c'était les sources dont on allait pouvoir disposer. Là encore, ce fut un travail de très longue haleine. Mais j'ai fait plusieurs découvertes qui ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives. Celle que j'ai réalisée en 1992 dans les archives du KGB m'a permis de faire l'inventaire des archives de la branche française pillées par les nazis en 1940, emportées à Berlin, puis à la fin de la guerre, saisies par les Russes, où elles demeuraient cachées aux yeux de tous depuis 40 ans. Grâce à un accord pertinent entre les archives russes et la famille Rothschild, ces précieux documents ont pu rejoindre en 1994 le centre des archives Rothschild à Londres. Cette correspondance privée, totalement inédite, a permis d'éclairer précisément, de manière nouvelle, la démarche d'Edmond Rothschild, ses choix ou ses non-choix, ses acquisitions, dans le domaine notamment de la gravure et du dessin, mais pas seulement. Moins exotique, mais tout aussi passionnante, fut la découverte au château de Waddesdon Manor, en Angleterre, de tous les registres d'entrée des gravures et des dessins, permettant de suivre pas à pas ses achats et l'évolution de son goût. Bien d'autres exemples pourraient être donnés. La découverte du carnet de comptes de Salomon de Rothschild a permis de réhabiliter la figure de ce jeune collectionneur boulimique qui achète plus de 5000 œuvres entre 1862 et 1864 et qui seront léguées par sa veuve en 1922. Ou encore, à la BNF, la découverte par Catherine Fèvre d'Arcier du fameux régerciste qui a servi à la rédaction du catalogue Picot et qui permet d'appréhender sur une très longue période les pratiques bibliophiliques de la famille Rothschild. La consultation de ces très nombreux documents originaux a permis également une analyse économique de ces transactions et du développement de marchés de l'art, portant à la fois sur des objets très divers et sur une très longue période. Le lecteur fera, je pense, de très nombreuses découvertes, car le premier travail a permis d'identifier des ensembles très hétérogènes, avec des centaines d'œuvres, parfois très connues, d'autres plus insolites, conservées en réserve, jamais photographiées, inconnues du public et des spécialistes, mais qui révèlent l'histoire d'un goût, d'une personnalité ou d'une époque. C'est dire si ces très nombreuses donations constituent finalement un formidable terrain de découverte qu'il convient aujourd'hui de faire connaître et surtout d'étudier en profondeur. La position internationale de la famille Rothschild constitue un atout indéniable. La grande originalité de ce projet a été de mettre en lumière ce réseau cosmopolite, souvent aux frontières de l'art et de la diplomatie. Conservateurs qui encouragent les donations, marchands, agents, intermédiaires, figures périphériques d'une très grande flexibilité qui font preuve de stratégie, d'audace, d'ambition pour acquérir des pièces qui rejoindront les institutions publiques. La frontière entre privé et public est parfois floue, comme en témoigne l'aventure spéculative du marchand Paul Leroy, à la fois homme d'affaires, conservateur de la collection d'Alphonse de Rothschild et conseiller des musées. La publication révèle également que de nombreux objets ont été donnés par la branche française à des musées étrangers, en Allemagne, en Suisse, en Israël. Cette donnée ouvre évidemment de très nombreuses perspectives de recherche à tous les historiens d'art, mais évidemment aussi à mes éditeurs qui penseront peut-être à un quatrième volume. Au-delà de ces innombrables blonds, c'est le sens de cet engagement culturel sans précédent envers les institutions publiques qui a été recherché, mais replacé dans le contexte plus large de la philanthropie. Spécificité française, puisque ni les branches anglaises, allemandes ou autrichiennes n'auront à cette échelle cette politique de mécénat culturel. James de Rothschild, le chef de la branche française, dans un souci d'intégration pour asseoir sa position sociale, va mener une véritable politique qui s'exercera principalement dans le domaine de la santé, l'éducation ou la religion. Ce sont les Rothschild de la troisième génération, les fils et les filles du fondateur, qui vont devenir donateurs au musée. Histoire française, histoire européenne, puisque Adolphe de Rothschild, le fils de Karl Meyer, fondateur de la branche napolitaine, ou James Edward, le petit-fils de Nathan Meyer, fondateur de la branche française, s'installe également à Paris. Plusieurs lignes directrices apparaissent. Les premières donations se situent donc après 1870, dans un contexte marqué par la défaite de Sedan, l'affaire Dreyfus en 1894, la montée du nationalisme avant la Première Guerre mondiale. Acte patriotique, acte éducatif, auquel s'ajoute le désir de freiner la dispersion des œuvres d'art dans un contexte où le marché devient de plus en plus international et concurrentiel. À cela peuvent s'ajouter des circonstances plus personnelles, comme l'élection en 1885 d'Alphonse de Rothschild comme membre de l'Académie des Beaux-Arts, puis celle en 1906 de son frère Edmond, qui ont le souci de légitimer leur richesse par le mécénat artistique. En faisant appel à un marchand, Paul Leroy, qui orchestre pendant 20 ans une politique artistique envers les artistes contemporains, Alphonse de Rothschild inaugure un nouveau type de mécénat, associant différents membres de sa famille au bénéfice des musées de région. Devançant l'action de l'État et se substituant à l'administration des Beaux-Arts, ces donations permettent à de nombreux artistes d'avoir une reconnaissance officielle libérée de la contrainte de l'institution. Les donations d'Edmond de Rothschild sont également exemplaires, car il est non seulement le premier mécène de la famille en 1873, mais il assure un appui et développe un mécénat aux institutions françaises, notamment au musée du Louvre, enrichissant de son vivant tous les départements pendant plus de 60 ans. Les années qui suivent la Grande Guerre voient l'arrivée d'ensembles importants et le passage à une démarche muséale, comme le montre ici les legs encyclopédiques et généralistes de la baronne Salomon de Rothschild, de Béatrice et Froussy, qui vont conjuguer différents modèles, celui de bâtisseuse, collectionneuse, mécène, et vont permettre l'entrée, pour la première, de chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie germanique, aujourd'hui conservée au musée des Couans, et des œuvres du XVIIIe siècle dans toutes ses composantes techniques pour la baronne et Froussy. La troisième étape verra les legs qui, à partir de 1735, vont changer de manière radicale le visage des collections nationales. Celui d'Edmond de Rothschild, dont le nom est attaché à la spectaculaire donation de gravures et de dessins en 1935, nous l'avons dit, mais également en 1947, celui de Henri de Rothschild, médecin, homme de théâtre, mécène, qui lègue la bibliothèque de son père, James Edward, l'émule du duc d'Aumale, et qui avait voulu constituer une bibliothèque rassemblant les témoins les plus significatifs de la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance. L'ensemble constitue un legs exceptionnel d'éditions rares, d'incunables et de manuscrits enluminés. La liste de leurs dons est très longue et se poursuit bien au-delà de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, leur mécénat prend d'autres formes, se manifestant par le soutien financier à d'importantes acquisitions ou par le financement de campagnes de restauration. Mais ils figurent toujours aujourd'hui parmi les plus importants mécènes des institutions culturelles françaises. Cette étude pourrait être le premier jalon d'une réflexion plus large sur l'histoire des collectionneurs privés au sein des institutions publiques françaises. Car le mécénat de la famille Rothschild évoque une histoire européenne du goût. Il n'est pas uniforme, mais il est unique par sa permanence, le nombre d'auteurs impliqués, d'œuvres données, d'institutions concernées, et n'a d'équivalent ni en Europe ni aux États-Unis. Je voudrais terminer en soulignant que la publication de ces trois volumes est un événement important, non seulement parce qu'elle présente une synthèse, mais surtout parce qu'elle est le point de départ, j'en suis sûre, de très nombreuses recherches, et qu'elle constituera un exemple, un encouragement à soutenir la politique de mécénat des musées français. Enfin, je suis particulièrement heureuse de remercier Philippe Sénéchal, qui le premier m'a très vivement encouragée à présenter à l'INHA un projet de mise en ligne des collections Rothschild, qui sera présenté tout à l'heure par Laura de Fuchsia et Antoine Courtin, que je remercie très chaleureusement pour leur implication dans leur projet. Tous mes remerciements vont encore vers tous ceux qui ont été associés à cet énorme projet, les éditions du Louvre, la BNF, Somogy, édition d'art, et particulièrement les auteurs, sans qui les livres n'auraient jamais pu voir le jour. Aussi, je suis heureuse de leur laisser la parole, et en premier à Marc Boscou, lui renouvelant ainsi toute ma reconnaissance.